C'est merveilleux de voir comment, quand le Seigneur, il délivre des choses, comment ça se propage, ça s'ouvre, il y a des répercussions. Vraiment, on bénit les personnes avec qui tu étais engagé dans l'activité dont tu t'es. Et on bénit ces personnes. Au travers de choses comme ça, Dieu, il va agir aussi dans le cœur de ces personnes. Voyez? C'est pour ça que c'est important aussi de chercher la délivrance, de chercher à ce que le Seigneur nous change de l'intérieur. Et tu as parlé d'une chose très importante au début, j'y reviendrai, concernant ce qui s'est passé en toi par rapport à la parole, par rapport à la parole de Dieu, cette soif qui est venue pour lire la parole. Effectivement, en ce moment, nous sommes dans des prédications autour de la parole en tant que, la Bible en tant que prophétie, la valeur prophétique de la Bible. Alain est revenu sur plusieurs événements, voilà, plusieurs prophéties, que ce soit au travers d'Abraham ou tout cela, qui ont été déjà accomplis dans la parole. Et donc il est revenu sur ces accomplissements. Je vais commencer par un verset qui résume bien ce que nous sommes en train de vivre par rapport à cela. C'est dans 2 Pierre 1, 19. Je vais prier avant. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour le message que toi, tu veux délivrer ce matin. Seigneur, je le remets. Je te le remets, Seigneur, que rien qui vienne de moi, qui ne soit pas de toi, n'entrave ce que toi, tu veux donner. Merci que les cœurs soient préparés à recevoir ce que tu veux semer. Seigneur Dieu, et merci pour ce que ça va produire par la suite. Amen. Donc 2 Pierre 1, 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est ce que nous sommes en train de faire. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Je vais le relire parce que notre tête est dure. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est ce que nous sommes en train de faire. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est là-dessus que je voulais insister ce matin, c'est de considérer cette valeur prophétique de la Bible. Nous sommes en train de voir comment, voilà, le Seigneur a un plan, il y a des choses qui se sont accomplies, il y a des choses qui vont s'accomplir, mais quelle valeur ça peut avoir dans ma vie? Qu'est-ce que je peux en faire concrètement dans ma vie? Vers quoi ça doit m'amener? Vers quoi ça peut m'emmener? Daniel, par exemple, je vais vous juste rapidement parler de Daniel. Si Daniel, voilà, on pourrait passer des heures et des heures à parler de Daniel, mais peut-être que voilà, on aura d'autres occasions. Daniel, par exemple, le livre de Daniel, c'est monstrueux, la prophétie qu'il y a, enfin, de voir comment ce qu'il a reçu, comment ça s'est accompli dans les temps qui ont suivi. Il y avait des discussions sur le livre de Daniel. Les savants juifs, ou enfin, les autorités juives, hésitaient à le mettre dans le canon, tellement ils étaient surpris. Mais comment un gars comme ça peut parler de choses qui s'accomplissent des centaines d'années après? Et par exemple, c'est ce qu'il fait quand Nebuchadnezzar, l'empereur de Babylone, reçoit ce rêve où il voit une statue, une immense statue qui est faite de différentes parties métalliques, la tête en or, les bras en argent, le torse en airain, le torse et les cuisses en airain, et les jambes et les pieds en fer et en argile. Et du coup, il va demander à Daniel de lui donner l'interprétation de ce rêve. Et c'est ce que Daniel va faire. Et donc, il va le donner de deux manières, c'est ce que vous verrez apparaître. À un moment, ça va revenir, c'est Daniel qui va recevoir directement cette prophétie sous une autre forme, quand il va voir quatre animaux, voilà, qui en fait traduisent la même chose, sauf que Dieu donne plus de détails. Mais en tout cas, ce que Dieu disait au travers de cette prophétie, c'est ce qu'il a dit à Nebuchadnezzar, c'est que après lui, trois empires allaient venir. Que finalement, cette succession, donc c'est la prochaine, voilà, cette succession de métaux au niveau de la statue, ça traduisait différents empires qui allaient s'établir. Alors Daniel, il n'a pas donné la précision des empires, puisqu'il ne les connaissait pas, puisque ce n'était pas arrivé. Hein? Sauf qu'après, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est l'empire des Mèdes et des Perses qui est venu. Ça correspondait à l'ours qui avait, quand Daniel le voyait, une épaule au-dessus, une épaule en dessous. Et effectivement, le roi de Médie était plus faible que le roi de Perse. Voilà, il y avait des choses qui se retrouvaient. Après est venu l'Empire grec. Daniel en parle comme en tant que le roi de Javan. Et Javan, finalement, c'est le mot aussi pour parler de la Grèce. Et puis ensuite, il a parlé de cet empire romain. Et cet empire romain, il disait, voilà, c'est un comme le fer qui écrase. Ben cet empire, il pulvérisera tout. Et c'est ce qui s'est passé hein, pour l'empire romain. Quand l'empire romain, il passait quelque part, tout était décimé. Hein. Enfin, en tout cas, ceux qui étaient pour la Pax Romana, c'était bon. Par contre, ouais, voilà, Astérix et Obélix, heureusement, ils étaient là. Mais sinon, pour les autres, voilà, ceux qui acceptaient pas la paix romaine, voilà, c'était terrible. Donc voilà, ça se retrouvait dans cette prophétie de Daniel plusieurs centaines d'années avant. Waouh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et ce qu'il vient dire aussi à Nebuchadnezzar, et ça c'est pour nous, c'est qu'après cet empire, il n'y aura pas d'autre empire humain. L'empire romain est le dernier, qui a commencé avec l'empire romain dans l'Antiquité qui se poursuit encore aujourd'hui. Et qu'à un moment, il y a cette pierre, comme Nebuchadnezzar voit cette pierre qui vient écraser, détruire les pieds et les jambes. Et en fait, cette pierre qui est sans le secours d'une main humaine, c'est dit. Donc ça, voilà, c'est de Dieu. C'est l'intervention de Dieu. Et cette pierre, c'est le rocher, c'est Jésus, voilà, qui vient et qui va venir définitivement. Ce rocher, à un moment, devient une montagne. Et ça, c'est le royaume de Dieu qui s'établit sur toute la terre. Et donc, nous sommes où nous en sommes aujourd'hui. Nous en sommes dans ce temps, juste avant que le rocher vienne. Enfin, le rocher est venu, mais juste avant que Jésus revienne et que, voilà, le rocher forme une montagne. Donc, nous sommes dans un temps où il faut se préparer. Et il faut vraiment prendre en considération cette valeur prophétique de la Bible. Hein, Alain l'avait dit, pour 160, il y a à peu près 300 prophéties dans la Bible. À l'heure actuelle, il y avait quelqu'un, par exemple, qui avait compté qu'on était rendu à plus de 178 prophéties accomplies. Pour 160 prophéties, c'est l'équivalent, pour que 160 prophéties dans la Bible se soient accomplies, c'est l'équivalent de réussir à prendre une fourmi rouge dans une fourmilière de fourmis noires qui a la taille de 10 millions de millions de soleils. Vous vous rendez compte? Moi, c'est tellement fou que plusieurs fois, il a fallu que je retourne voir le bouquin, parce qu'avant, je disais 10 millions de soleils ou 10 millions de mille soleils, ou j'arrivais pas à considérer que c'était 10 millions de millions de soleils. Je ne pouvais pas le faire rentrer dans ma tête tellement c'est complètement dingue. C'est complètement fou. Et donc voilà, on voit cette valeur prophétique de la Bible. Je pourrais donner d'autres exemples. Rapidement, je vais en donner deux, trois. À un moment, donc il y a d'autres choses aussi dans la Bible qui se sont accomplies après Daniel, après d'autres prophètes, qui sont accomplies il y a peu de temps avec l'établissement d'Israël sur sa terre en 1948. Par exemple, quand ils ont obtenu cette terre, Israël, mais c'était un désert. C'était un désert. C'était marécageux aussi. Il y avait des marécages et un désert. Donc c'était pas terrible, quoi. Et à un moment, il y a une prophétie qui a été donnée dans la Bible comme quoi les déserts refleuriront. Et à partir du moment où Israël a été sur sa terre, effectivement, on a vu, donc ils ont cultivé et tout, et on a vu des déserts qui se sont transformés en champs, voilà. Il y a eu des arbres qui ont poussé et tout. À un moment, il est marqué dans Jérémie que Israël allait venir prendre des cépages étrangers pour faire du vin. Et effectivement, à un moment, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait venir notamment des cépages de Bordeaux. Voilà, comme quoi, le vin français, hein, c'est pas mal, hein. N'est-ce pas? Des cépages de Bordeaux, et puis d'autres. Et d'ailleurs, au départ, le vin, il n'était pas terrible du tout. Et après, voilà, ça, c'est devenu un bon vin. Mais voilà, jusque dans des détails comme ça, c'est complètement fou, quoi. Moi, ça me réjouit, je trouve ça vraiment génial. Mais alors, tu peux aller à la prochaine diapo. Voilà, comment justement, comment considérer cette valeur prophétique de la Bible? Quelles conséquences en tirer? Nous, nous sommes vraiment dans une zone privilégiée. Ce matin, on priait cela, où vraiment, bah, la parole, voilà, Yvette, elle a sa Bible sur les cuisses. Hein. On peut avoir notre Bible comme ça, sans souci. Quand j'ai vu le reportage avec des chrétiens chinois qui étaient complètement débordants de joie quand ils voyaient des Bibles arriver, et il y en avait que quelques-unes, donc il n'y en avait pas pour tout le monde. Des personnes qui attendent depuis des années d'avoir une Bible. Et nous, on peut avoir la parole de Dieu sous nos yeux à chaque minute, à chaque moment, à chaque heure, tout le temps. Qu'est-ce que je fais de la Bible dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de cette valeur prophétique de la Bible? La Bible est parole de vérité, c'est vraiment la vérité. Et même, j'ai envie de dire, scientifiquement, quelque part, c'est prouvé. Alors, quelles conséquences en retirer dans ma vie? Quelles conséquences en retirer? Alors, on pourrait dire, voilà, bah, faut que je prie plus. Faut que j'aille plus souvent aux réunions d'église. Faut que je, différentes choses. Mais il ne s'agit pas de tomber sous le légalisme. Il ne s'agit pas de dire, voilà, bah, je vais en faire plus. Bon, c'est sûr, si tu en fais moins, vaut mieux que tu en fasses plus. Ça, c'est certain. OK. Hein? Mais voilà. Pour moi, la base, prochaine diapo, la base, c'est la conséquence à en tirer. Moi, en tout cas, la conséquence que j'en tire, et c'est ça que je veux vous transmettre ce matin, c'est de cultiver. Moi, quand je vois que cette parole prophétique, comment elle s'accomplit, à quel point elle est parole de vérité, qu'il y a vraiment un plan qui est tracé, qui, voilà, les choses vont s'accomplir, la pierre, elle va venir, la montagne, elle va grandir. Ça va se faire. Voilà. Ce que ça me donne envie, c'est d'aller plus souvent dans cette parole, de cultiver cette relation à la parole. De cultiver cette relation à la parole. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, hein, quelles conséquences vous pouvez en retirer. Mais voilà, de cultiver cette relation à la parole. De faire que, voilà, bah, effectivement, d'y donner plus de temps. Parce que la relation, il faut y donner du temps pour qu'elle soit consistante. Mais surtout qu'elle soit plus profonde, quoi. Qu'elle soit plus profonde. Alors comment? Comment effectivement? Comment le faire? Parce que voilà, c'est des messages à l'église, voilà, comme quoi, allez, lisez plus la Bible, vous pouvez en recevoir. Mais comment? Comment concrètement? Alors j'aimerais donner quelques repères pratiques. La première chose, je crois, c'est d'abord de la lire. Et de la relire. Et de la re-re-relire. Et de la re-re-relire. Et de la re-re-re. Je pourrais faire longtemps comme ça. Mais voilà. C'est à partir du moment où je la lis et je la relis qu'à un moment, il y a des connexions qui se font, en fait, entre les différents passages. Moi, ça fait, voilà, ça fait des années que je lis la Bible. Alors, vous avez des plans de lecture de la Bible en un an, en deux ans, pour ceux qui font le bibleton, par exemple. Et c'est vrai que je remarque qu'à chaque fois, finalement, que je relis la Bible, bah, voilà, il y a des parties comme ça qui se connectent. Et c'est comme si, voilà, bah, la parole, c'est Jésus, hein. Et vous apprenez à connaître de plus en plus une personne et vous rentrez dans sa pensée. Et la relire, voilà, alors, bah, effectivement, seul, c'est important de le faire seul, mais on ne peut pas le faire que tout seul. Il faut aussi être à plusieurs. Parce qu'on a nos filtres, on a nos manières de voir, et c'est justement en se confrontant, en partageant les uns avec les autres, que du coup, ça s'enrichit. Donc ceux qui ne sont pas dans un groupe de maison, je vous encourage à y aller. Je vous encourage à y aller et je vous encourage vraiment à trouver comme ça des lieux où vous pouvez étudier la parole ensemble. Prochaine diapo. Et aujourd'hui, vraiment, il y a différents outils qui existent pour étudier la Bible. Avec la technique aujourd'hui, on peut avoir la Bible sur son smartphone, sur sa tablette. Sans doute que les jeunes, vous me parleriez d'autres outils, n'est-ce pas? Voilà, il y a différents outils, il y a des logiciels, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a des logiciels pour étudier la Bible. Ah, où vous cliquez sur un mot et puis vous trouvez où ce mot il se trouve dans tous les autres versets dans la Bible. Ça existe aussi avec une concordance. Ça, une concordance, c'est super important. Moi, vraiment, je vous encourage à avoir une concordance. Je vous dirai pourquoi plus tard. Mais je vous encourage à avoir une concordance. Quand vous avez une concordance, voilà, vous retrouvez un mot, vous le retrouvez partout ailleurs dans la Bible. Il y a effectivement, la Bible, elle n'est pas forcément d'un abord évident. C'est pour ça qu'il existe des introductions à la Bible, que ce soit en format papier ou que ce soit sur Internet. Sur Internet, vous avez plein de ressources, alors il faut trier. Il faut vraiment trier. C'est pour ça que les pasteurs sont là. Il faut vraiment trier. Voilà, vous avez des dictionnaires bibliques. Et puis pour ceux qui n'aiment pas lire, pour ceux qui ont vraiment, il y a quelque chose de viscéral ou il y a quelque chose qui n'a pas été digéré pendant l'école ou je ne sais pas, et puis il y a quelque chose qui ne passe pas avec la lecture. Il y a la Bible audio. Donc vous n'avez aucune excuse. Il y a la Bible audio. Donc il y a vraiment différentes manières d'étudier la Bible. Mais là, vous voyez, là on pourrait croire que étudier la Bible, c'est quelque chose qui est intellectuel. Et en fait, à la base, ce n'est pas ça. À la base, ce n'est pas ça. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, particulièrement. Prochaine diapo. Prendre du temps dans la parole, c'est un temps de relation. Je prends le temps de la relation avec Dieu. Je pense à quelqu'un qui, à un moment, ou même plusieurs personnes que j'ai vues comme ça, qui, voilà, quand je les voyais lire la Bible, c'était comme ça. Attends, je vais prendre un passage, par exemple, dans les psaumes. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier sans gosier, mon gosier se dessèche. Alors effectivement, là, la Bible, elle est lue. Mais est-ce que c'est un temps de relation? Est-ce que, voilà, quand vous allez prendre un café avec quelqu'un, vous dites, voilà, bon, bah, alors je suis content de te voir, j'ai pu faire mon ménage à la maison, après j'ai des courses à faire et puis j'espère que tu vas bien. Alors si c'est comme ça, le rendez-vous ne risque pas de durer longtemps, ou la personne, elle va peut-être avoir le sentiment qu'elle n'a pas trop de place. Et la Bible, non, on prend le temps, effectivement. Sauve-moi, ô Dieu. On prend le temps pour que les mots y rentrent. Et puis voilà, il n'y a pas de performance à avoir. Vous avez l'éternité. Vous avez l'éternité pour lire la parole. Donc c'est un temps de relation. Et c'est ça, en fait, c'est ça le plus important. C'est de miser sur la relation. Quand vous êtes dans la parole, de miser sur la relation. Ce qui va se passer entre vous et Dieu. Et vous pourriez passer une heure sur un mot. Une heure sur un mot. Ouais, sauve-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Concrètement, ton salut, c'est quoi? Ah, je me souviens de ci, je me souviens de ça. Ah, merci Seigneur pour cela. Et qu'est-ce que tu veux faire encore? Vous voyez? Donc c'est, voilà, on prend le temps de la relation. La Bible, on peut la prier. La Bible, d'abord, il s'agit avant tout de la croire. Avant même de parler de prier, il s'agit de la croire. C'est pas quelque chose, vraiment, c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est plutôt alors faut pas la lire sans son cerveau, hein. Mais c'est plutôt la foi qui précède l'intelligence. Et c'est parce que je crois à la parole, même si j'y comprends rien, et c'est pas grave, même si j'y comprends rien, que là, du coup, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Vraiment. La parole, moi je vous invite par exemple à la lire à voix haute. À la lire à voix haute, à vous adresser à Dieu. Directement, vous êtes conscient que vous vous adressez à Dieu quand vous lisez la parole. Quand vous êtes sur des psaumes qui disent « Mon âme bénit l'Éternel », bah vous vous adressez à vous-même. Vous adressez à votre âme, plus exactement. Et vous lui dites de bénir l'Éternel. Vraiment, quand on la lit à voix haute, déjà, voilà, on fait plus exister la relation. C'est voilà un petit truc pratique. Et la Bible, voilà, on peut la prier, un peu comme je l'ai fait quand j'ai dit sauve-moi avec le salut. Mais, par exemple, à un moment, je me souviens, j'avais dit quelque chose de vraiment pas sympathique du tout à quelqu'un il y a quelques jours là. Je ne l'avais pas vraiment accueilli comme il fallait, parce que la personne était venue en plus sur mon jour de congé. Donc du coup, j'ai vraiment pas été cool. Je dis, ah tiens, tu viens me voir sur mon jour de congé. Puis je ne l'ai pas dit très sympathiquement. Et vraiment, c'était pas sympa. Vraiment, c'était pas sympa. Et puis, quand je fais un truc pas sympa, et ben, Saint-Esprit me le dit. Et puis, il me le dit. et puis il me le dit jusqu'à ce que je règle la chose. Voilà. Et donc, le soir, à 23h30, j'ai quand même envoyé un message où j'ai demandé pardon. Et voilà, quoi. Hein, pour l'attitude offensante que je pouvais avoir, où j'expliquais que c'était compliqué pour moi enfin bref, voilà. Et le lendemain, je lisais dans un psaume, c'est dans les 140 et quelques, veille sur la porte de mes lèvres. Et du coup, j'ai eu cette prière. Oh Seigneur, veille sur la porte de mes lèvres, je te demande pardon effectivement pour ce que j'avais dit à cette personne. Fais que ce qui sort de ma bouche, vraiment, ça soit que des choses que toi tu veux dire, que des paroles de vie, que des paroles de bénédiction. Et quand il y a quelque chose qui ne passe pas, bah vraiment, hop, tu es là comme un gardien sur la porte de mes lèvres. Et merci parce que je sais que tu veilles. Priez le texte. Amen, merci, amen. Merci Seigneur. Et enfin, voilà, exposer ma vie au regard du Saint-Esprit, parce que bien sûr, quand on lit la parole, il faut s'attendre à ce qu'il se passe des choses. Il faut s'attendre à ce qu'il se passe des choses. Effectivement, si je ne prends pas le temps de la relation, il ne se passera rien. Ou je serai frustré, ou je vais me dire, ah, j'y arrive pas, je ne comprends rien. Non, il faut vraiment y aller avec la foi et croire qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, il y a des paroles sur lesquelles on tombe à un moment. Quand on cultive cette relation, à un moment, vous ouvrez la Bible et puis il y a quelque chose qui vient vous parler là, comme ça, personnellement. Mais parce que, justement, il y a toute une relation que vous avez construite. Pour que Dieu vous parle personnellement, il faut, voilà, que la relation, elle se construise. Et quand je parlais de concordance tout à l'heure, on peut tout à fait faire quelque chose où, par exemple, voilà, si j'ai un problème de colère dans ma vie, ben, je viens prendre le mot colère et je regarde avec la concordance ou avec un logiciel biblique partout où il se trouve. Et puis voilà, et puis j'ai tous mes versets et je médite ces versets avec Dieu. Et là, croyez-moi que la colère, il va agir dessus. La colère, il va agir dessus, vraiment. Il y a des choses comme ça. La Bible, c'est un compagnon. C'est le compagnon de ma vie. Il y a des histoires dans la Bible qui correspondent à des périodes de notre vie. Par exemple, voilà, si à un moment j'ai un souci avec... Si je suis dans l'adolescence, mes parents me gonflent, ou voilà, il y a d'autres choses, à l'école ça ne va pas, ou tout ça, voilà, ben je peux aller dans des textes où Jésus, quand il a 12 ans, et quand il, voilà, il pose clairement les choses avec ses parents. Et si je suis parent d'adolescent, ben je peux aller dans ce texte-là, et puis voilà, et puis Dieu, il aura des choses à me dire. Hein. Ou voilà, ou ce texte avec Élisée, quand il était jeune, il vient à la suite, il lâche ses bœufs, parce qu'il était en train de labourer, et puis il va à la suite du prophète Élie qui l'appelait à venir. Il était jeune à ce moment-là, il y a quelque chose autour de l'appel. Dieu, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Donc il y a vraiment, voilà, on peut aller chercher dans la Bible des histoires comme ça, il faut aller chercher des histoires qui correspondent à ce que l'on vit. Parce que Dieu, il a quelque chose de personnel à nous dire par rapport à cela. Il veut vous accompagner, il veut nous accompagner. Il y a aussi une chose, comme je disais, c'est pas qu'une affaire d'intelligence. C'est une affaire spirituelle. La parole, elle est spirituelle. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Nathalie qui disait, voilà, comment, quand il y a eu des délivrances dans sa vie, il y a une soif de la parole qui est venue. Et effectivement, quand on est devant la parole, on peut avoir des blocages spirituels. Et généralement, c'est le cas. On revient de loin, mes amis. Vraiment, on revient de loin. Et vraiment, Dieu, il veut faire quelque chose comme ça. Il y a des choses comme ça qui viennent sur nous. Il y a des choses qui veulent nous empêcher de comprendre la parole. Il y a des choses qui veulent nous empêcher d'être pénétrés par la vérité de Dieu. Il y a des choses qui veulent nous empêcher de comprendre comment Dieu y pense. Qui veulent vraiment squeezer, interférer avec cette relation. Et tous, on a des choses comme ça. C'est pour ça que quand on vient devant la parole, on prie le Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire. Mais voilà, on peut recevoir des délivrances qui vont faire que, on peut avoir besoin de délivrances qui vont faire que, du coup, ça va changer complètement notre rapport à la parole. Juste ce petit témoignage. Moi, quand j'étais jeune chrétien, voilà, j'avais vraiment, j'en ai parlé plusieurs fois, j'ai vraiment eu une conversion. C'était vraiment fort ce que j'avais vécu avec le Seigneur. J'avais vraiment senti l'amour du Père pour moi. Et puis là, dans cette église, tout le monde venait vers moi. Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne comprenais rien à ce qu'on me disait. Hein, quoi? Ça veut dire quoi, ça? Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Pour moi, c'était du charabia. C'était du charabia. Et parallèlement, quand je lisais la parole, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. C'est du charabia. Et pour vous dire qu'il y a quelque chose de spirituel, à un moment, je me suis retrouvé avec des chrétiens où là, je leur ai posé toutes mes questions. En quoi, voilà, le protestantisme évangélique aurait le monopole de la vérité. Enfin, voilà, je posais de cette manière, quoi. Mais bon, j'étais... voilà. Pourquoi, voilà, Dieu ne se révélerait pas dans toute autre religion, par exemple le bouddhisme, tout, il intervient sous une autre forme. Bon, j'étais un peu... moi, je croyais que... avant, je croyais à la réincarnation, et puis quand je suis devenu chrétien, quand j'ai eu cette conversion forte, bah, j'étais en train de me dire, bon, en fait, la vie chrétienne, c'est la dernière vie du cycle de réincarnation. C'est comme ça que tu en sors. Et puis voilà, quoi. Alors, quand j'ai parlé comme ça à un gars qui était responsable des jeunes... il m'a regardé comme ça, il dit « Oula, il y a du boulot. » Je ne crois plus ça. Je vous rassure. Amen, hein, merci. Mais vous voyez, et donc, ces chrétiens, ils prient pour moi. Enfin, ils essayaient de répondre à mes questions. Et à un moment, il y avait tellement de questions que du coup, ils me disent « Bon, écoute, on va prier pour toi. » Voilà, donc ils ont prié pour moi. Et après, dans les jours qui ont suivi, ils ont prié pour moi. Et quelques jours après, un matin, je me lève, je me réveille, et là, je me réveille avec la pensée, ah, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis, ouais, mais c'était une révélation. C'était une évidence. Je m'étais plus posé mille questions ou théologiquement, j'essayais de comprendre les trucs. Non, c'était une révélation. Et j'ai ouvert la parole, et là, ah, c'est comme s'il y avait un voile qui était ôté. Et je pouvais comprendre la parole. Et à partir de là, il y a une soif de la parole qui est venue. Et voilà, et cette soif, elle a toujours été là. Et je prie le Seigneur qu'elle continue d'être là. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous rendre sensible au fait qu'il y a des choses spirituelles qui font que, je ne voudrais pas, parce que souvent j'entends des personnes dire, mais ouais, moi je ne comprends rien, c'est dur. Et puis, des personnes qui vont croire qu'elles ne sont pas intelligentes, par exemple. C'est faux, c'est des mensonges. Voilà, effectivement, on n'a pas tous la même intelligence. Hein. Mais voilà, mais ce n'est pas une affaire d'intelligence. Et ne vous fermez pas la porte, vraiment. Rentrez dans cette relation. Je voudrais juste qu'on prenne un temps de prière. Est-ce que vous auriez envie de voir le Seigneur agir dans votre vie par rapport à ce qu'on a pu dire ce matin? Est-ce que tu as envie que le Seigneur il intervienne dans ta relation à sa parole? Est-ce que tu as envie d'être renouvelé dans tes pensées? Et que vraiment, quel que soit le nombre d'années où tu es chrétien, quel que soit le nombre, ta maturité chrétienne, est-ce que tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie par rapport à cela? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui bloquent et tu as besoin que ça parte? Alors ceux qui ont à cœur cela, je vous invite à vous lever à votre place. Et on va prier, on va rentrer dans une prière. À un moment, je vais rentrer dans une prière où je vais vous inviter à répéter. On va le faire dès maintenant même. Seigneur Jésus, Seigneur, je proclame ta grâce sur nos vies. Je te remercie pour qui tu es, je te remercie pour ta présence dans nos vies. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu es celui qui nous a été donné. Tu es vraiment la promesse du Père qui nous a été donnée pour comprendre la parole, pour la comprendre spirituellement, puis ensuite avec nos têtes, mais d'abord avec notre cœur. Et je te remercie, Saint-Esprit, j'appelle vraiment ton action maintenant dans nos vies, dans les vies de chacun ici, par rapport à ce que tu veux faire dans notre cœur. Ouais, merci Seigneur pour ton action profonde et puissante. Maintenant, j'invite ceux qui se sentent touchés, qui veulent vraiment voir quelque chose se passer, à poser tout simplement la main sur leur tête. Posez la main sur votre tête. Vendredi soir, on a eu un super temps de louange avec les jeunes et puis et ouvert à toute l'église. Et à un moment, j'ai senti physiquement quelque chose vraiment autour de ma tête, c'est venu par vagues comme ça plusieurs fois. Et je pensais, et Dieu disait, le Saint-Esprit me donnait le mot diadème. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça que Dieu veut faire dans nos vies, ce matin en particulier, par rapport justement à notre rapport à la parole, à nos pensées. Alors que vous avez la main posée sur votre tête, maintenant recevez avec foi ce que l'on va prier. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Saint-Esprit, pour ton action dans ma vie. Je reçois ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus, que tout esprit qui est contraire à ta parole, que tout esprit qui veut m'empêcher de comprendre spirituellement ta parole, de la recevoir dans mon cœur, je brise son pouvoir maintenant dans le nom de Jésus. Tout esprit de religiosité, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui me dit « mais t'es bête, t'y arriveras pas », tout esprit de dévalorisation, je brise votre pouvoir dans le nom de Jésus. Je refuse de marcher avec vous. Et je reçois ce que l'Esprit du Seigneur veut me donner maintenant. Merci pour ton renouvellement dans mes pensées. Merci pour les nouvelles compréhensions que tu mets dans ma vie. Merci pour la soif de ta parole que tu mets dans ma vie, dans mon cœur. Merci Seigneur de me donner la persévérance à te chercher. Et merci pour cette relation de cœur à cœur que je peux avoir avec toi. Merci pour les révélations que maintenant je vais recevoir. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.
Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont passées à cœur Sozo. Il y a des choses comme ça qui sont passées à cœur Sozo où vraiment, je crois qu'on a, alors c'est pas faux, hein, c'est pas mauvais, mais quelque part, on a appris trop à fonctionner avec notre tête, de manière trop cérébrale. Et on a vraiment à recevoir les choses aussi par révélation. Et en fait, ça s'équilibre. Il faut être ancré dans la parole, mais il faut aussi être ouvert à la révélation de Dieu, au Saint-Esprit. Et c'est des choses comme ça que des personnes qui étaient à cœur Sozo ont vécu.